Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Comme Elle. Je suis Émilie, je suis votre hôte et la fondatrice de l'agence événementielle La Parenthèse Magique. Au fil des épisodes, je vous emmène à la rencontre de femmes au profil très différent mais qui ont tout un point commun, c'est d'être inspirantes de par leur métier, leur passion, leur vision de la vie, leurs objectifs, leurs ambitions. Des femmes connues ou moins connues, mais auxquelles on pourra toutes s'identifier et se dire bon, « si elles y sont arrivées, pourquoi pas moi ?» Ces conversations avec mes invités sont là comme de véritables boosts d'énergie positive, pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous dire qu'en y croyant très fort et en s'en donnant les moyens, eh bien finalement tout est possible. Et puis, que surtout, surtout, comme elles, vous osiez. Alors, sans plus attendre, je laisse place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Maude Demarque. Dès 12 ans, Maude savait qu'elle voulait être chercheuse. Après de brillantes études, elle finira par atteindre son objectif en exerçant le métier de ses rêves. Mais au fil du temps, elle se rend compte que certains aspects de son métier ne sont plus en phase avec qui elle est et ce à quoi elle aspire. Alors, elle entame un grand virage et devient créatrice de patron de couture en lançant sa propre marque, Anna Rose Patterns. Durant cet épisode, Maude nous parlera en détail de son parcours d'abord de chercheuse, puis d'entrepreneur à la tête de sa micro-entreprise. Elle nous racontera comment elle est passée d'un métier scientifique à un autre beaucoup plus créatif et surtout, a-t-elle toujours été créative? Est-ce qu'elle a appris à coudre? Comment elle s'en est sortie? Comment elle a monté sa boîte? Et comment elle gère aujourd'hui ce quotidien bien différent de celui de chercheuse, évidemment? Elle répondra à toutes ces questions et bien plus encore dans cet épisode, un parcours comme on les aime, qui inspire et qui donne envie de s'écouter et d'y croire. Alors, comme d'habitude, je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maude.
Bonjour Émilie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode du podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et si tu veux bien, quel âge tu as?
Alors d'abord, merci Émilie de me recevoir dans ton podcast. Alors, qui je suis? Donc, je suis Maude. Quel âge j'ai? J'ai 40 ans. Qui je suis? Je suis une femme qui a une vie de famille, qui est paxée avec deux enfants, deux garçons. Et actuellement, je suis la créatrice des patrons de couture de la marque Anna Rose Patterns, entreprise que j'ai fondée plus de six ans maintenant.
Ok, donc créatrice de patrons de couture, on va évidemment en reparler tout à l'heure, mais il faut le dire, tu as eu une autre vie avant, je ne sais pas si je peux dire une autre vie, mais en tout cas tu étais chercheur.
Oui.
Donc c'est quand même un virage à, je ne sais pas comment on dit, 180 degrés, 90 degrés, en tout cas un virage, un sacré virage, et donc j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Est-ce que quand tu étais petite, tu savais ce que tu voulais faire plus tard?
Oui, alors jusqu'à 12 ans, je voulais être vétérinaire, ouais. Et à partir de 12 ans, j'ai voulu être chercheur en biologie, à partir de la découverte des chromosomes en classe de 5e avec ma professeure Madame Salomon, qui si un jour m'écoute.
Dédicace à Madame Salomon.
Voilà. Donc j'ai voulu être chercheur en biologie et donc j'ai axé mes études pour passer un doctorat effectivement de biologie moléculaire et cellulaire. Et être chercheur.
Ok, et justement, quand tu étais petite, parce que tu nous parles, tu étais au collège, on n'a pas forcément conscience de ce que c'est véritablement le quotidien d'un chercheur. Selon toi, qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Est-ce que déjà, depuis toute petite, tu t'intéressais à plein de choses, tu étais très curieuse? Est-ce que tu avais un environnement, des membres de ta famille ou tes proches qui étaient dans ce domaine-là? Est-ce que tu saurais nous dire un peu?
Alors en fait, je pense qu'il y avait toujours eu deux pôles dans ma vie et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça a toujours été la création, la créativité de toutes les formes et la nature, les animaux, la biologie, la nature, on va dire, l'environnement au sens large. Dans ma famille, non, il n'y avait pas spécialement de personnes qui faisaient un métier associé à ça. Il y avait de la créativité par contre. Ouais. Après, voilà, j'ai toujours aimé beaucoup la biologie et cette fameuse Madame Salomon. Quand je vais, en fait, on a découvert les chromosomes, la mitose, la méiose, ça parlera peut-être à certaines personnes. Et en fin de cours, je lui ai dit, mais j'adore, mais est-ce qu'il y a un métier où on étudie ce genre de choses et on en parle et on découvre ce genre de choses ? Elle me dit, bah oui, la recherche.
D'accord. Bah,
bim, ça m'avait mis le mot dans la tête et c'était ancré jusqu'à...
Ok, mais comme quoi, c'est marrant, tu vois, des petites choses comme ça quand on est enfant, ado, qui font qu'ensuite, ça nous donne envie. Mm. Donc, tu voulais, dès 12 ans, être chercheur. Mm. Après, être chercheur, est-ce que tu avais un domaine précis ? Parce que chercheur, c'est très vaste. Enfin, moi, j'y connais pas non plus grand-chose, mais j'ai quand même fait des études de bio.
Oui, à
mon petit niveau, un peu plus d'eux. Mais on peut être chercheur dans plein de domaines. Est-ce que tu savais déjà vers quel secteur... tu voulais te diriger, au-delà de savoir que c'était chercheur, bio, etc.
Oui, alors un peu naïvement au départ, parce que j'avais que 12 ans,
ouais.
C'était un peu tout ce qui était cancer.
D'accord.
J'étais abonnée à Science et Vie, ouais. Donc tu vois, je baignais un peu dans les choses de la vulgarisation scientifique qui fait un peu rêver, et c'était, oui, tout ce qui était ADN, chromosomes, cancer,
ouais,
plus l'humain ou l'animal en tout cas.
Ouais, d'accord, ok. Mm. Donc, comment tu fais pour atteindre cet objectif depuis tes 12 ans jusqu'à l'obtention du diplôme et la suite dont on parlera ?
Je fais en sorte de bien travailler.
Ouais.
J'ai la chance d'avoir des capacités qui font que je réussis mes études. Après, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais même aujourd'hui, enfin, je pense que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Et puis, c'était passionnant. Donc, forcément, ça aide quand on aime ce qu'on fait.
Quelles études tu as fait ?
Le DUG, j'ai passé mon DUG à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Après, j'ai passé ma licence à Orsay. Après, j'ai fait un magistère. Donc, c'est une formation un petit peu spéciale, spécifique. Un peu accéléré, un peu concentré parce qu'on part en fait en stage. Je suis partie en stage aux États-Unis pendant ma maîtrise pour travailler dans un hôpital pour enfants malades à Memphis pendant 5 mois.
Ok, belle expérience, j'imagine. Enfin, belle expérience en tout cas enrichissante par rapport à tes études.
Oui, alors tu es pas au contact des enfants malades parce que je ne suis pas médecin, mais tu es dans les laboratoires associés à l'hôpital.
D'accord.
Non, c'était génial, super expérience. Et puis, je suis revenue pour passer mon DEA. Et quand tu es en DEA, tu es la plupart du temps en labo. Donc, j'étais rentrée dans un laboratoire à l'Institut Pasteur.
D'accord, à Paris.
À Paris. Et donc, j'ai continué ma thèse dans ce même labo. J'ai passé ma thèse dans ce labo.
Ok, donc un bac plus 8.
Ça fait un bac plus 8, presque 9. Parce que les thèses, en plus, moi, je travaillais sur la souris, donc c'est toujours plus long.
Ok, d'accord. Je ne sais pas. La souris plus qu'un lapin ?
Non, pas plus qu'un lapin, mais le lapin, ça n'arrive quasiment jamais. Mais plus que, par exemple, si tu travailles sur des cellules ou si tu travailles sur des organismes qui se reproduisent rapidement, en fait. C'est surtout,
d'accord.
Tu as des délais qui sont incompressibles avec les souris et c'est pour ça que ça rallonge.
Ok, voilà. D'accord. Et du coup, en faisant ces études, en découvrant davantage que lorsque tu avais 12 ans le métier, la recherche, ce que c'est véritablement que d'être chercheur, est-ce que là, pour le coup, tu avais un goal, un but ultime à la sortie de tes études ? Ou pas forcément, tu te laissais un peu guider par les opportunités qui pourraient venir à toi ?
Alors, mes études, c'était top. Le stage aux États-Unis m'a confortée dans mon idée de vouloir faire de la recherche. Après, ça a été plus compliqué pendant la thèse.
D'accord.
Ça a été plus compliqué de aussi se rendre compte de la réalité du métier. Comment dire, un métier adéquat pour avoir une vie de famille, et je souhaitais quand même avoir une vie de famille.
Ouais.
Donc, on réalise rapidement que si on veut une carrière dans la recherche, ça peut être compliqué d'avoir une famille, ou en tout cas, il faut attendre d'avoir 40 ans et d'avoir un poste pour peut-être commencer à en fonder une, et c'est pas ce que je souhaitais.
Parce que tu veux dire que les journées sont à rallonge ou comment...
Ouais, il faut consacrer énormément de temps à son travail en tant que doctorant et ensuite en tant que post-doctorant.
Ouais.
Et puis, il y a quelque chose qui m'a aussi... Je me suis rendu compte, en fait, que je n'étais pas faite pour un métier fait de 90% d'échecs. Parce que c'est ce qu'est la recherche, en fait, c'est... Et il y en a qui l'acceptent tout à fait d'essayer, de rater, et que c'est le propre du métier. Et en fait, j'ai réalisé que... C'était trop insatisfaisant pour moi, trop décevant. J'arrivais pas à accepter ces échecs, en fait.
Ouais, je comprends. Et ça avance... Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais de ma petite expérience, les recherches que l'on fait sur les sujets qu'on traite quand on est dans une unité ou un labo ou autre, ça va très lentement, en fait.
Mm.
Et effectivement, tu as beaucoup d'échecs. Et à la fois, quand tu as des réussites et des avancées, c'est très lent, c'est des petites avancées, c'est petites avancées plus petites avancées qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir publier un papier parce qu'on a fait une super découverte, mais arrête-moi. Mais...
C'est ça. Mais en fait, c'était ce décalage qui s'est formé au fil des années, ça, c'était pas directement. Puis moi, j'étais tellement à fond dedans depuis toute petite que c'était dur de d'enlever un peu le voile d'illusion et de dire, bon, bah, en fait, ouais, peut-être que finalement, ça ne te correspond pas, quoi.
Ok. Donc, à la sortie de tes études, après ton doctorat plus, 8-9 ans, est-ce que tu rentres dans le monde du travail? Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans la recherche. C'est des emplois classiques, entre guillemets, c'est des CDI. Comment ça se passe?
Non, c'est une filière un peu spéciale, forcément. C'est des labos qui proposent des postes qui s'appellent des post-doctorants.
Ok.
De post-doctorants. Parfois, c'est un peu différent. Ça peut être assistant. Moi, je suis partie en Suisse, par exemple, et j'ai été considérée comme... professeur assistant et chercheur.
D'accord.
Mais c'est propre à... Voilà, ça dépend des labos. Mais okay. On est post-doctorant et ce sont effectivement des CDD. Et les labos, en fait, emploient des gens pour 3, 5, parfois 6 ans okay. et vont renouveler voilà, ces postes en changeant de personne. Et tu es censé avoir... être allé au bout d'un sujet de recherche, avoir publié quelque chose à ce sujet au bout de voilà, tes 3, 5 ans.
Oui, d'accord. Ans. Donc finalement, c'est assez peu stable, entre guillemets, dans le sens où au bout des 3, 5 ou 6 ans, tu sais que de toute façon, tu changeras de labo.
C'est ça. En fait, soit tu enchaînes sur un autre post-doctorat, ce que font pas mal de personnes. Enfin, ça fait un moment que je ne suis plus trop liée à ce milieu, mais ce que faisaient à l'époque les gens. Ou soit tu as la chance d'avoir tellement bien publié que tu peux déjà postuler pour un poste titulaire, voire ouvrir une unité en tant que jeune chercheur.
Ouais.
Et ça a été un nouveau frein pour moi dans mon idée parce que j'ai réalisé que la finalité de mon travail, ça serait de devenir, mettons, directeur de recherche.
Ouais.
Et directeur de recherche, c'est quand même beaucoup de management, de déplacement à l'étranger pour parler de son travail et pour faire beaucoup de demandes d'argent. Et en fait, tout ça ne me plaisait pas. Donc, je me suis dit, bon, de plus en plus, il y a quelque chose qui ne va pas correspondre en fait, à ce que je veux faire. Voilà, donc ça a été une baisse de motivation sur les, on va dire, 3 dernières années. Quand j'ai eu en plus mon deuxième fils, on m'a bien fait comprendre que ma carrière était terminée, donc ça a aidé.
Ah, merci, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait traiter, mais ok.
Voilà, donc bon.
Bah, c'est bien parce qu'en fait, on voit le cheminement, d'où l'intérêt d'échanger avec plein d'invités différentes, c'est-à-dire que tu as une envie d'un métier quand tu es petite, sans trop connaître vraiment ce que c'est le quotidien que d'être chercheur, tu fais ces études-là, que tu réussis brillamment, et puis au bout d'un moment, les années passant, ça te plaît, mais tu te rends compte que ce quotidien-là, bah, c'est peut-être pas véritablement ce qu'il te faut à toi aussi, donc c'est bien d'avoir ce cheminement et de voir que même quand on sait ce qu'on veut faire dès tout petit, bah peut-être que le quotidien qu'on va vivre ne va pas forcément nous satisfaire à un moment donné de notre vie.
Oui, il y a ça et il y a aussi qu'en recherche, il n'y a pas de place pour tout le monde.
Oui, c'est important de le noter comme
Moi, j'ai énormément d'amis et de connaissances qui ont fait totalement autre chose.
Oui, parce qu'ils n'ont pas trouvé de poste.
Parce que pas de place, parce que de publier des articles qui ont du poids, c'est très compliqué, de plus en plus compliqué. Et donc, d'avoir ça dans son dossier pour arriver à avoir un poste de titulaire, c'est très compliqué.
Oui, ok. Donc du coup, on va forcément venir à parler de couture, puisque tu t'es présentée en nous disant que tu étais créatrice de patrons de couture.
Oui.
À quel moment la transition se fait entre « je suis chercheur » à « moi, je me suis arrêtée à Genève, mon post-doctorat » à « je lance Anna Rose Patterns ». Est-ce qu'il y a eu un déclic, véritablement? Est-ce que, alors, on dit que... Enfin, tu nous as dit tout à l'heure que tu t'épuisais un petit peu dans ton quotidien et que ça ne te plaisait plus. Est-ce que c'est là tout de suite où tu t'es dit « allez, patron de couture » ou est-ce qu'il y a quand même eu un
non,
cheminement?
Alors, au départ, j'ai commencé à reprendre... Alors, comme je t'ai dit au départ, moi, il y avait beaucoup de créativité dans ma vie. J'ai toujours été très créative. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours fait beaucoup de choses avec mes mains.
Ouais.
Et j'ai toujours aimé créer, ce qui s'est beaucoup arrêté pendant mes études, faute de temps.
Ouais.
Et en fait, là, je pense que perte de motivation pour le travail a fait que j'ai eu envie d'avoir quelque chose qui me faisait du bien à côté. Mais donc, je me suis remise au départ tricoter.
D'accord.
Et puis, petit à petit, je sais même plus exactement comment, mais ça en est venu à la couture, que je n'avais jamais fait petite. J'avais fait un peu de couture, un truc désastreux avec la machine de ma mère parce que je n'arrivais pas du tout à gérer. En plus, j'avais voulu faire un t-shirt, le truc le plus dur pour commencer, avec une découpe, vraiment un truc, j'étais partie en live. Et si, j'avais quand même fait des trousses avec des vieux jeans, mais bon, ça s'était arrêté assez rapidement. Et du coup, là, j'ai repris la couture au départ, bon, d'accessoires, et puis ça me plaisait bien. Puis après, de vêtements. Alors, j'avoue que quand je vois les vêtements, je me souviens des vêtements que j'ai fait au début. Aujourd'hui, je me dis « mon Dieu !» Mais bon, c'était les débuts. Et du coup, c'est devenu assez rapidement une passion dévorante. En fait, j'ai commencé à manger du bloc de couture tous les jours, à rentrer dans ce monde, en fait, dans cet univers de la couture et notamment des créatrices de patrons indépendantes.
Mais tout ça en étant encore...
Encore chercheur. Donc, en fait, à mes heures de loisirs.
Bien sûr.
Et il y a eu le mariage de ma cousine aussi en 2015, où j'ai eu envie de créer des petites tenues pour mes nièces. Finalement, j'ai fait aussi des gilets pour mes enfants et mon conjoint. J'ai fait pas mal de petites choses. Et à la suite de ça, comme à chaque fois, je modifiais les patrons que j'utilisais très rapidement. À chaque fois, il y avait « Ah non, ça, je ne le veux pas comme ça. Ça, je vais faire comme ci. » Mais je fais ça avec beaucoup de choses. Hein. Je fais toujours à ma sauce. Et donc, du coup, rapidement, j'ai créé de toutes pièces, dès le départ, le patron, voilà, comme je le voulais.
Mais alors, je me permets de te couper parce que moi, pour aussi faire beaucoup d'activités créatives, et notamment de la couture. Moi, je fais des petits accessoires, mais en fait, je me suis arrêtée là parce que des vêtements, il faudrait qu'on m'apprenne. Je ne saurais pas faire toute seule. Alors si, peut-être qu'en m'y mettant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à regarder des tutos, des machins, j'arriverais à sortir quelque chose. Mais je veux dire, entre couture d'un petit accessoire, d'une petite trousse et faire des vêtements portables, et d'autant plus, alors moi, ça m'impressionne, modifier le patron et pouvoir... avoir finalement un vêtement personnalisé à partir d'un patron existant. Est-ce que tu as appris ça quelque part? Est-ce que tu as pris des cours? Comment tu as su faire?
Alors au départ, je pense que c'est aussi une question de façon de capacité, ça fait un peu prétentieux, mais je pense que par exemple, il faut avoir une capacité de voir en 3D, ce que n'ont pas forcément toutes les personnes. Par exemple, ma mère me dit toujours, mais je ne comprends pas le montage. Et en fait, je pense qu'elle n'a pas de vision 3D et du coup, elle n'arrive pas à comprendre comment ça se monte.
Chacun ses capacités, c'est vrai, tu as raison.
Et ce côté aussi scientifique, parce que finalement, un patron, c'est du dessin, c'est de la géométrie. Oui. Et comprendre, il me faut de l'aisance au niveau de la poitrine, la pince va créer tel volume.
J'aimais bien la géométrie, hein, moi, quand j'étais à l'école, hein, mais pour autant...
du coup, moi, ça me parlait en tout cas. Ça me parlait. Et au départ, non, je ne me suis pas appuyée forcément sur quoi que ce soit. Mais par contre, quand c'est devenu plus sérieux, je me suis appuyée beaucoup sur des livres. Et quand je disais que j'étais bosseuse, quand je m'y suis mise, j'ai bossé pour que ce soit sérieux, que ce soit fait dans les règles de l'art. Oui. Et surtout, aujourd'hui, je me fais accompagner d'une modéliste depuis des années parce que je veux un œil d'une professionnelle qui, en général, n'a rien à redire sur mon patronage, qui me fait la gradation, c'est-à-dire qui me fait toutes les tailles, qui me digitalise mon patron parce que moi, je fais toujours à la main.
Ouais.
Et qui parfois... qui aussi me fait les tests de montage avec son logiciel. Elle peut vérifier que toutes les pièces s'emboîtent comme il faut, que tous les crans sont placés où il faut pour le montage. D'accord. Donc moi, c'est le côté... ça me rassure. Il y a un œil technique de quelqu'un qui a la formation. Parce qu'évidemment, le syndrome de l'imposteur n'est jamais loin.
J'allais te dire, tu n'as pas de formation. Pour autant, aujourd'hui, Anna Rose Patterns, ça marche très bien. Tu en vis. Enfin, c'est une activité à part entière. C'est ton métier. Mmh. Sans avoir de formation. Et c'est pour ça que je te posais la question de comment tu as fait. Je pense que là, pour le coup, on peut le dire sans prétention aucune. C'est moi qui le dis. Donc, ça va aller. Tu as quelque part un don qui fait que déjà, tu as cette capacité. Alors que tu vas développer, comme tu nous le disais, en lisant, en gardant des choses, mais tu as déjà cette capacité à pouvoir comme ça. Moi, ça m'arrive avec d'autres choses. En fait, chacun a ses capacités un peu innées.
C'est ça, exactement. Je pense qu'on est chacun en fait, amené à exceller dans un domaine et qui va être différent pour chaque personne. Et puis quand on le trouve, on l'a trouvé. Après, ça ne m'empêche pas de m'être formée, par exemple, sur Illustrator. Parce que je suis pour le coup pas très douée en informatique. C'est pas un truc qui me plaît. Mais il fallait absolument que j'aie les bases pour traiter mon patron quand il revenait chez la modéliste parce que je voulais pouvoir proposer ce qui s'appelle un système de calque pour les patrons, c'est-à-dire pouvoir imprimer seulement sa taille. Je voulais améliorer encore mon produit et il fallait que je passe par la case formation.
Ok, d'accord. Donc c'est intéressant, notamment, tu nous le disais, le syndrome de l'imposteur, mais c'est bien aussi de montrer que déjà, tu n'as pas fait de formation à part entière. Mais pour le coup, tu avais ce don-là que tu as développé et aujourd'hui, tu sais aussi t'entourer, tu nous disais, d'une modéliste pour vraiment effectivement confirmer et avancer comme ça. Donc, c'est possible aussi sans formation quand on a ces capacités puis en s'entourant correctement. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment tu es passée à professionnaliser cette activité, parce que là tu nous dis que sur ton temps libre ça te prenait justement un peu tout ton temps libre à côté de ton métier de chercheur. Comment la transition s'est faite? Est-ce que ça a été rapide? Est-ce que la décision a été facile à prendre? Dis-nous.
Alors, non, pas du tout. Ça n'a pas été rapide. Alors, ça ne me prenait pas tout mon temps parce que j'avais quand même deux enfants en bas âge.
Alors, à côté de ce temps-là, oui. Mais ton temps libre à toi.
Voilà, on va dire, voilà. Mon temps libre à moi, oui, ça me le prenait. Et même au boulot, quand j'avais des pauses, je sais que sur l'ordi, j'étais tout le temps dans les blocs de couture.
Ah oui, d'accord.
C'était devenu, comme quand je dis une passion dévorante, c'était vraiment... j'y pensais en me couchant, j'y pensais en me relevant. Ça pouvait m'empêcher de dormir. Je devais me relever pour dessiner des trucs, quoi.
Ouais, d'accord.
C'était... voilà. Et alors non, ça a commencé au tout départ par un blog que j'avais partagé avec ma sœur. C'est elle qui m'a proposé, ma sœur aînée, j'ai deux sœurs, ma sœur aînée qui m'a proposé, comme je m'étais mise au tricot, puis après elle aussi, puis en fait moi j'ai laissé le tricot, puis je me suis mise à la couture, puis elle a continué le tricot, puis elle faisait aussi beaucoup de cuisine. On avait envie voilà, de partager ça comme ça. Voilà.
Ouais. C'était en quelle année ça?
Alors c'était je pense qu'on a commencé en 2014-15.
Ouais, d'accord. 15. Okay.
Et du coup, d'ailleurs, le blog s'appelait « J'avais envie ». C'était ma sœur qui avait proposé ça. Et puis, nos articles commençaient par « J'avais envie de vous parler de… » Voilà.
Ouais, c'est bien.
Et du coup, voilà, ça a commencé par ce blog. Bon, ça... Après, nos vies ont fait qu'on n'avait pas forcément toujours le temps. Ma sœur avait plus trop envie de partager, par exemple, la cuisine. Et puis moi, avec mon métier qui me motivait de moins en moins, je commençais à me poser des questions. Je savais que mon labo aussi allait fermer, en fait.
Ah oui, d'accord.
Parce que mon chef partait à la retraite. Et quand c'est comme ça, le labo ferme et en fait, tout le monde doit s'en aller, sauf les
Ah oui, c'est pas quelqu'un qui va reprendre derrière.
Alors si, mais avec sa propre équipe, d'accord. Sauf les techniciens. En tout cas, en Suisse, là, les techniciens restaient. En général, c'est le cas parce qu'ils ont des postes fixe.
Ouais.
Mais tout ce qui est post-doctorant doit finir et partir, en fait.
D'accord.
Et donc, je savais, voilà. Et en même temps, côté personnel, on était frontalier de la Suisse et on voulait retourner dans l'ouest de la France pour se rapprocher du reste de nos deux familles.
Ok.
Donc, voilà, tout se mélangeait un petit peu, quoi. Baisse ouais, de motivation, comprends. On veut en même temps bouger, mon labo ferme. Donc, quand le labo a fermé, effectivement, on n'avait pas encore pu bouger avec le travail de mon conjoint. Et donc, il m'a dit, écoute, commence, lance-toi.
C'est l'opportunité.
Voilà,
là,
parce que je ne pouvais pas chercher de boulot là-bas, vu qu'on était censé s'en aller.
Oui.
Donc, j'ai commencé avec un tout petit... Alors, on a arrêté le blog, parce qu'avec ma sœur, on avait eu plein d'idées, mais en fait, elle a un poste de CPE dans un lycée, donc elle ne se sentait pas forcément de continuer avec moi à faire une entreprise, en fait.
Oui.
Donc, j'ai continué toute seule, et donc c'est là que j'ai cherché mon nom, Anna Rose Patterns, que j'ai tout lancé, que j'ai changé aussi de site pour la vente. J'ai vraiment créé un vrai site.
Ouais, dédié.
Enfin, c'est pas moi qui l'ai créé. D'ailleurs, je me suis accompagnée de l'équipe du petit studio à Tours que m'avait conseillé quelqu'un et d'accord. Qui sont vraiment super. J'en fais une petite pub au passage. Du coup, qui ont créé mon site et qui aujourd'hui continuent de m'aider à l'améliorer ou à créer de nouvelles choses dessus.
Ok.
Donc, voilà.
C'est quand tu étais en Suisse que tu as commencé à te dire, allez, si je tentais, de toute façon, le labo a fermé. Pour l'instant, je n'ai plus de boulot. On va bientôt repartir dans l'ouest de la France. Allez, c'est le moment finalement.
Alors là, j'ai lancé sur le petit site au départ avec notre ancien nom qui était Madis.
Ok.
Mais il y avait deux patrons qui étaient gradés sur quatre tailles parce que je gradais tout à la main à l'époque. J'avais pas encore la modéliste. Ouais. Donc en fait, c'était vraiment le test. Bon. Alors, je me suis lancée aussi parce que il y a eu un épisode avant où je me suis baladée. Je suis allée au salon Création et Savoir-Faire à l'époque en tant que visiteur.
Ouais, qui est un salon, je fais une parenthèse, qui a lieu à Paris, Porte de Versailles, qui existe encore et qui était le salon du loisir créatif où tu allais pour rencontrer justement, alors il y avait des patrons de couture, mais il y avait plein, vraiment tout type de loisirs créatifs. Et c'était un peu, tu passais la journée là-bas quand t'étais fan de Do It Yourself, c'était génial, quoi, le paradis.
Ça. Ouais, exactement, exactement. Et du coup, on y était allé pour la couture, le tricot, pour plein de choses. Moi, j'adore aussi la broderie, je brode aussi. Et du coup, je m'étais baladée, enfin, j'étais venue avec un de mes patrons sur le...
Un de tes vêtements.
Issu d'un de mes patrons cousus sur le dos. Et en fait, je me suis fait quand même pas mal arrêter. Ah, mais elle est magnifique, votre blouse. Mais c'est quel patron? Alors, je disais, c'est moi qui l'ai créé. Ah, super et tout. Et vu que j'étais en questionnement sur ce sujet, Bah, c'est vrai que ça a fait son chemin, quoi, petit à petit, je me suis dit. Et puis, au départ, on avait parlé avec ma sœur de créer une collection de vêtements pour enfants. Puis, bon, on avait réfléchi. Puis, en fait, non, ça n'allait pas. Et puis, un jour, je sais pas, je me rappelle, c'était en vacances. J'étais dans un garage Renault.
Ah oui, c'est précis.
On avait un petit souci avec la voiture en vacances, je sais pas quoi. Et d'un coup, je me suis dit, mais je vais faire ça. Je vais faire des patrons de couture. Parce que je me suis dit, investissement de base n'est pas trop important à part en temps et en travail. Et puis, bien, si ça marche pas, ça marche pas. Et puis, voilà. Et je t'avoue qu'en parallèle, au départ, je continue à envoyer des CV... dans le domaine de la biologie, voilà,
oui, non, je,
que, je me disais, bon, t'es complètement folle, qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, il y avait plein de gens dans ma famille, quelques-uns qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait?
Bah, après, quelque part, on comprend, aujourd'hui, de moins en moins, mais les chercheurs, et là, elle veut se lancer dans les patrons de couture, c'est... oui, pourquoi pas, mais c'est ça, effectivement.
C'est ça. Bah, même mon conjoint qui m'avait dit, bah, vas-y, essaye, quand on est arrivé du coup en Touraine, et que j'ai continué, il m'a dit, peut-être tu vas chercher un boulot, et je lui ai dit, bah non, mais... Et je me rappelle à quelle époque, je lui ai montré mes stats des 6 premiers mois en lui disant, mais t'inquiète pas, je suis mes stats, je continue à envoyer des CV et si ça stagne ou que ça ne... Voilà, je laisserai tomber, pas ça, voilà.
Oui, c'était pas inconscient non plus par rapport à ton quotidien et ta vie de famille. Okay. Donc au début, tu as assez peu de patrons. Est-ce que tout de suite, tu arrives à trouver des gens fidèles ou en tout cas, ne serait-ce que des acheteurs? Et si oui, comment ça se passe? Est-ce que tu as profité de la communauté que tu avais créée quand tu avais le blog avec ta sœur? Enfin, comment tu t'es fait connaître en fait au début?
Alors oui, c'est sûr qu'au début, ça m'a aidé qu'on ait créé une petite communauté avec ma sœur. Donc au départ, en parlant tricot, en parlant couture. Ouais. Donc on avait déjà... Alors c'était via Instagram. Et je pense qu'à l'époque, Instagram était beaucoup plus aidant pour les petites entreprises qui démarraient. Ça a été plus... C'était plus facile. C'était moins compliqué d'avoir du lien, d'avoir des likes, des commentaires. Enfin, c'était beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui. Et donc, forcément, ça nous a aidés. Et ensuite, quand j'ai continué toute seule, donc j'ai changé le nom du compte, mais j'ai gardé la communauté.
Oui.
On avait 2000 abonnés, je pense, quand j'ai continué.
C'est bien pour débuter.
Ouais. Et puis après, j'ai continué avec cette communauté. Et encore une fois, je pense que Instagram a commencé à se compliquer... je dirais à partir de 2020-2021, où là, ça a commencé à être très compliqué. Donc jusque-là, comme j'ai démarré en 2017, on va dire que j'ai eu 3 années où ça a bien progressé, ça m'a bien aidé à me faire connaître, en fait.
Ok. Et à partir de combien de temps tu as pu en vivre? Alors, je veux dire correctement, mais chacun sa définition d'en vivre correctement. En fait, comme toi, tu l'entendais, à partir de quand?
Je dis toujours qu'au bout de 6 mois, pour moi, c'était viable.
Ok.
J'avais le confort de mon chômage. Donc, Et puis, bien sûr, j'avais quand même un compagnon au cas où, mais j'ai toujours voulu m'assumer toute seule. Donc, mais oui, je dirais qu'au bout d'un an, déjà, j'étais...
Confortée dans l'idée que ça marchait et que ça pouvait être ton métier.
Voilà. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de gagner énormément d'argent. Du moment que je peux subvenir à mes besoins et que je peux me faire plaisir, avoir un peu de loisir et mes enfants aussi, voilà.
Oui, c'est pour ça que je dis, je donne pas de chiffres parce qu'en fait, on a chacun sa définition du vivre correctement et du salaire que l'on entend qui est convenable pour nous et nos envies. Donc,
exactement.
Ok, ce qui est bien parce que c'est rapide, en partant entre guillemets de zéro sur une activité où tu n'étais pas connue.
Mais je pense que ça aurait été plus, si ça avait été plus lent, je pense que j'aurais pas persévérer
tu crois. Okay.
J'aurais eu trop peur et j'ai eu la chance aussi de commencer à un moment où il n'y avait pas tant que ça de créatrices françaises, de patrons de couture indépendants, alors que
aujourd'hui,
pendant le Covid, ça a explosé et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur.
Ouais, mais dans plein de domaines,
ça a été
le
cas.
Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous parler rapidement, parce que quand on préparait l'épisode, justement, tu me disais que, je ne sais plus à quel moment, mais tu avais failli reprendre un master d'immunologie.
Oui.
Est-ce que tu peux m'en parler rapidement?
Eh bien, en fait, c'est pour que mon conjoint soit muté, il y a eu plusieurs étapes. Et en fait, à un moment, on a cru que ça allait le faire. Et moi, j'étais encore en poste en Suisse à ce moment-là. Je faisais déjà de la couture, mais dans le cadre du loisir. Et en fait, forcément, il y a des dates pour rentrer dans un master.
Bien sûr, oui.
Et du coup, avec sa mutation qui tombait au bon moment, je pouvais intégrer ce master. Donc, j'avais pris contact avec la responsable. Et, d'ailleurs, j'ai un gros bouquin d'immunologie à la maison que j'utilisais à un moment donné en presse-papier. Elle était OK pour que j'intègre le master, sauf que mon compagnon n'a pas eu sa mutation au final.
D'accord.
Donc voilà.
Mais c'est le destin. C'est pour ça que je voulais que tu nous racontes cette petite anecdote, parce que imagine, il aurait eu sa mutation, t'aurais repris le master d'immunologie et peut-être que tu serais pas là aujourd'hui pour me parler de ton parcours et d'Anna Rose Patterns.
Ouais, je serais peut-être,
comme quoi.
Je sais pas ce que je serais.
Bah, peut-être plein d'autres choses très chouettes aussi, mais ouais. En tout cas, voilà. Mm. Comme quoi le destin parfois se joue à pas grand-chose. Donc tu nous parlais que tu avais eu ce déclic à Création Savoir-Faire, que finalement tu avais lancé, qu'au bout de 6 mois, pour toi, c'était convenable par rapport à ce que tu gagnais et que ça devenait vraiment un emploi, un vrai métier en fait, cette création de patron de couture. Est-ce que tu pourrais nous parler quand même de ton état d'esprit à ce moment-là, même si tu l'as déjà un petit peu abordé, puisque tu passes de chercheur, donc à un secteur qui est assez particulier quand même, tu nous l'expliquais, à être à ton compte, seul, dans la création de patron de couture, à devoir te faire connaître. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton état d'esprit ? Et deuxième partie de ma question, est-ce que ton entourage, tes proches, t'ont poussé ? Est-ce que ça t'a aidé ?
Alors, en fait, je crois que j'étais tellement submergée de travail que je crois qu'en fait, je réfléchissais pas.
D'accord.
En fait, je travaillais. Parce qu'il fallait à la fois monter l'entreprise, donc il y avait énormément de paperasse d'administratif. Ouais. Fallait gérer aussi avec le chômage parce que j'avais le droit à des... Enfin, c'est pas des aides, mais à un système qui me permettait en fait de compenser avec le chômage ce que je ne gagnais pas avec mon entreprise pour les premières années.
Pendant un certain temps, oui.
Pendant un certain temps. Et aussi d'avoir des réductions
de charges
au départ. Donc tout ça, fallait mettre en place. Et puis, il fallait créer du patron. Et comme je t'ai dit, au départ, je faisais tout à la main. Donc c'était énormément de temps passé, plus coudre, plus faire des photos au départ toute seule.
Ouais.
Et assez rapidement, j'ai rencontré Barbara un peu sur les réseaux, pareil, qui faisait de la couture. Barbara, son compte, c'est Maison Elpida. Et du coup, qui m'a proposé très gentiment, moi aussi, j'ai besoin de faire des photos. Quand je fais des cousettes, on fait nos photos.
Ouais.
Elle avait un très bon appareil en plus. Donc, c'était top. On se faisait des séances où chacune se prenait en photo. Puis ben, moi, ça me faisait... ça me faisait des belles photos parce que c'est quand même très important, surtout quand tu es sur Instagram.
Oui, bah, puis c'est très visuel. Et ce que tu fais, alors même si le patron en lui-même, c'est pas le patron qui est... Enfin, si, c'est visuel, mais comment je pourrais dire ? Disons que c'est voir la création grâce à ton patron qui donne envie d'acheter le patron
tout
pour faire
fait.
Soi-même. Ça.
Donc, mon état d'esprit était plutôt de boss.
Ouais.
J'ai eu... la première année, j'ai frôlé le burn-out en été.
Ouais.
Je me couchais à 1h du matin, je me levais à 5h. Pour bosser avant d'amener les enfants à l'école, parce que en plus, comme j'étais à la maison, j'étais un peu mère au foyer en même temps.
Ouais, c'est compliqué quand on travaille de chez soi.
Ouais, c'était vraiment compliqué, mais bon, voilà, je l'ai fait.
On s'en sort.
On s'en sort. Et puis l'état d'esprit était j'ai peur, mais j'y vais.
Ouais. en tout cas, de ce que tu nous dis, tu donnais tout pour y arriver, en tout cas.
J'ai essayé vraiment, et en fait, j'étais tellement passionnée. Et ça me nourrissait tellement que je pouvais pas faire autrement. En fait, je me suis dit, je peux pas arrêter, je peux pas ne pas essayer au moins, aller jusqu'au bout.
Et est-ce que ton entourage te poussait ou pas forcément, ni plus ni moins. Enfin, est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a aidé ou pas forcément?
Non, pas trop. Je pense qu'ils se demandaient un petit peu ce que je faisais. Même mon conjoint était un petit peu, je le comprends, inquiet parce que il se demandait un petit peu où ça allait aller. Et puis ça. Voilà, forcément, par rapport à notre famille, ça pouvait avoir un impact. Hein, donc,
bien sûr.
Donc, il me soutenait quand même. Hein, il me disait, fais ce que tu as envie de faire, écoute ta créativité, crée ce que tu as envie de créer. Mais parfois, je voyais que sur plutôt l'aspect financier, il pouvait être un petit peu inquiet.
Oui, ça se comprend.
Donc, après, je lui ai dit, tu sais bien que j'ai la tête sur les épaules, je ne veux pas partir, faire n'importe quoi. Mais après, si, ma grand-mère me soutenait, parce que ma grand-mère, c'est Anna. Donc,
Justement, j'allais... ma question suivante, c'était pourquoi Anna Rose Patterns ?
Oui, alors parce que du coup, souvent, on m'appelle Anna Rose, mais non, moi, c'est Maud.
Mais les
c'est
gens
vrai
sont
que
maintenant.
Les pauvres, oui, c'est un peu... non, Anna, c'est ma grand-mère qui aime les belles choses, qui est très élégante, qui a toujours été une femme qui, pour moi, est quand même inspirante par ce qu'elle aime, par la beauté de... par exemple, quand j'allais chez elle, elle me dit « Ah, t'étais toujours la première à repérer quel nouveau bibelot je pouvais avoir. »
Oui, d'accord.
C'était un peu... Elle aime... Elle aime les belles choses, voilà. Elle aime les belles choses et elle a aussi fait plein de choses de ses mains. Rose, en fait, c'était le prénom que j'aurais voulu donner à ma fille, mais j'ai eu deux garçons.
Bon, ben voilà.
Voilà. Donc Anna Rose, puis j'ai ajouté Patterns parce qu'à l'époque, Anna Rose, ça existait déjà. Je crois que c'était quelqu'un qui faisait de la peinture.
Ah, d'accord.
Et je me suis dit, bon, comme ça, c'est peut-être un peu plus précis aussi, quoi.
Ok, donc Anna Rose Patterns. Donc maintenant, on sait. est-ce que, en termes de salaire, alors, encore une fois, sans rentrer dans les chiffres précisément, mais est-ce que c'était vraiment un enjeu financier que de passer de chercheur à, je lance les patrons de couture en, voilà, par rapport à toi, ce dont tu avais besoin pour ton quotidien, je ne sais pas ce qu'on gagne quand on est chercheur, mais est-ce que le gap était quand même important, mais que tu t'es dit, non, c'est ma passion, j'y vais quand même.
Alors, je gagnais bien mieux ma vie en tant que chercheur en Suisse.
Ok.
Après, en tant que chercheur
oui, en Suisse.
En c'est... France, c'est pas pareil.
D'accord.
Je pense qu'en France, j'aurais aujourd'hui une qualité de vie similaire, je pense, et un niveau de salaire similaire.
D'accord.
Je ne suis pas certaine, mais je pense. Et non, en Suisse, je gagnais beaucoup mieux, mais après, j'avais aussi beaucoup plus d'impôts, la vie était beaucoup plus chère.
Oui, oui, bon. Après, c'est différent.
Voilà, ouais. Mais bon, non, je gagnais bien mieux ma vie en Suisse. Voilà, okay. Et si j'avais pas voulu me rapprocher de ma famille, et puis si j'avais pas été démotivée par la recherche, j'aurais pu continuer.
Ouais, ok, je comprends. Non, mais je voulais savoir, c'était intéressant aussi de parler de ça. Alors, ça fait un petit moment qu'on parle quand même de cette création de patron de couture, qu'on a dit que ça s'appelait Anna Rose Patterns, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail du coup maintenant. Dans notre conversation, tu me disais qu'au tout départ, il y avait deux patrons. Il y en a combien aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je n'ai pas compté précisément, mais je pense qu'il y en a plus d'une cinquantaine.
Ok, de toutes sortes, enfin de tout type de vêtements.
Alors pas de lingerie, mais oui, il y a du manteau, du pantalon, de la blouse, des petits hauts, des robes, des jupes.
Ok.
J'essaye que, alors depuis plusieurs années, mes patrons sont gradés du 34 au 52, mm-hmm. les tailles. Il y a encore d'anciens patrons qui ne sont pas mis à jour, mais j'essaye au fil du temps, comme je fais tout toute seule, de mettre tout à jour, que ce soit vraiment une offre homogène.
C'est bien, c'est large du 34 au 52, enfin moi je ne me rends pas compte. Mais
oui, alors j'ai commencé du 36 au 42, les tout premiers.
Okay.
C'était vraiment pour tester.
Bien sûr.
Et assez rapidement, j'ai fait 34-46 pendant, je pense, 2 ans, mm-hmm. peut-être 3. Et je ne me rendais pas compte, en fait, j'avais pas encore assez mis le pied dans cette communauté couture pour me rendre compte du besoin.
D'accord.
Au-delà de la taille 46. Et bien, j'ai écouté mes clientes, j'ai écouté les retours. Et c'est vrai que bon, moi, c'était un investissement en temps, en travail et financier supplémentaire.
C'est ce que j'allais te demander parce que, alors, je n'y connais pas grand-chose dans le prêt-à-porter, mais souvent, il y a des marques, justement, qui essaient d'être un peu inclusives et d'avoir justement ce type de taille, mais qui, étant petite marque, ne peuvent pas forcément tout de suite développer chaque vêtement de 34 à 52, voire plus, parce que c'est un enjeu financier considérable dont les gens ne se rendent pas forcément compte. Donc, est-ce que c'est pareil pour le patron, en fait, le fait d'avoir davantage de taille
Alors, c'est peut-être un petit peu moins engageant que pour du prêt-à-porter parce qu'il y a des histoires de métrage de tissu. Moi, je suis dans du dessin. Mais ceci dit, ça me fait un coût supplémentaire, par exemple, de modéliste. Mm-hmm. Ça me fait un coût supplémentaire d'impression parce que forcément, les planches sont plus grandes.
D'accord, oui.
Et aussi, aujourd'hui, j'ai demandé à deux testeuses, entre guillemets, plus revieweuses, de coudre mes patrons dans des tailles supérieures à la mienne pour pouvoir les montrer sur des personnes différentes de moi. Tout ça, en fait, en temps aussi, en gestion, me demande beaucoup.
Oui.
Et c'est quelque chose que je veux faire, mais c'est clair que ça ne se fait pas en un claquement de
doigts. Du jour au lendemain, ouais, ok. Donc, une cinquantaine de patrons de couture, tout type de vêtements, et c'est bien de le rappeler parce que, alors, il y a certainement des couturières aguerries qui nous écouteront, mais d'autres qui se diront « elle vend des vêtements ». Non. Donc, toi, aujourd'hui, tu crées des patrons de couture. Mmh. On achète ces patrons pour créer soi-même le vêtement en question.
Voilà, ça s'adresse à des couturières.
Oui, à des couturières. Alors après, j'imagine que peut-être au niveau de tes patrons, tu as des choses pour des débutants, des choses peut-être plus...
Oui, alors au départ, j'évitais de mettre le niveau débutant, parce qu'en fait, j'ai un niveau qui est de 1 à difficulté 1 à 4.
D'accord.
Et je ne mettais jamais 1, parce que en fait, comme je n'avais pas beaucoup de schémas, parce qu'à l'époque, justement, je n'étais pas formée sur Illustrator, et je ne voulais pas faire des schémas vilain.
Moche.
voilà. Je mettais toujours 2 sur 4 parce que je me disais, oh là là, si c'est quelqu'un de débutant et que je ne lui mets pas d'image, et en plus, je ne faisais pas non plus de pas photo, ce que je fais aujourd'hui pour chaque patron quasiment.
Ouais, d'accord.
Je me suis dit, que du texte, elles ne vont pas aimer, donc ça va être un mauvais retour. Et je n'avais pas envie que les clientes, en plus, achètent quelque chose et qu'elle soit insatisfaite.
Oui, n'arrive pas à faire.
Et qu'elle n'arrive pas. Et du coup, je n'osais pas. Mais aujourd'hui, oui, j'ai créé certains patrons où, ça y est, j'ai mis... Il y en a un notamment, c'est la blouse Doris, qui est vraiment typiquement ciblée débutant. Quoi. C'est,
ouais,
c'est okay. Du 1 sur 4 et il y a des schémas. Et
d'accord.
Tout est facile.
Alors, ces patrons, tu les vends sur ton site internet.
Oui.
Est-ce que on a d'autres moyens de se procurer ces patrons?
Alors, on peut aussi, pour ce qui est patron, parce que donc, je les vends soit en format numérique PDF,
d'accord,
à imprimer chez
qu'on
soi.
Qu'on imprime soi-même.
Voilà, et qu'on reconstitue à la maison, ou qu'on peut faire imprimer à l'extérieur en grande planche.
Mm-hmm.
Ou je propose aussi, et ça c'est pareil, ça n'était pas dans les débuts, mais ça s'est venu quelques années après, le démarrage des patrons qu'on appelle pochettes, papier.
Tout prêt.
Voilà, tout prêt, avec un packaging, le petit livret d'explication et la planche de patron.
Ok.
Et donc, ces patrons-là, je les vends aussi, évidemment, en ligne. Et très récemment aussi, j'ai commencé à travailler avec des merceries.
D'accord.
Qui revendent mes patrons. Je ne souhaite pas forcément pour le moment généraliser cette pratique. Donc, je le fais avec, pour le moment, 3 ou 4 merceries.
D'accord.
4, je crois.
Dans la région Tourangelle, là où tu vis, ou pas forcément ?
Non, justement, en fait, j'essaye... Alors, il y en a une, c'est Rascol, qui est une grosse mercerie, oui, en ligne, voilà, qui me demandait depuis 2-3 ans de pouvoir revendre mes patrons. Comme on s'est mis d'accord sur des termes qui me convenaient, on a travaillé ensemble. Mais je souhaitais plutôt que ce ne soit pas des merceries en ligne, justement, pour ne pas, oui, trop concurrencer mon site.
Bien sûr.
Donc, il y a une mercerie à Yvetot, dans le 76,
ouais,
qui a accepté de les vendre simplement dans leur boutique physique.
Okay.
Et une autre mercerie qui va ouvrir dans le Morbihan.
D'accord.
Qui ouvre fin mars, là. C'est
bien.
Il m'avait demandé, voilà, si je...
Ça navigue.
Et peut-être une à Dijon aussi, à qui je suis en train de parler. Mais okay, c'est pareil, s'il y en a une, par exemple, à Dijon... je ne vais pas proposer à une autre, ou si,
ouais,
quelqu'un me demande qui est aussi à Dijon, je vais lui dire, bah non, je suis désolée, je travaille déjà avec quelqu'un à Dijon, voilà.
Donc, ouais, je comprends, tu préfères avoir l'exclusivité dans une ville pour éviter que ça se concurrence et que,
oui, et voilà, qu'on les trouve un peu partout et qu'au final, bon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'évidemment, moi je suis bien sûr moins gagnante quand je passe par des revendeurs,
évidemment,
que quand je passe par ma boutique.
Ouais, je comprends, ok. Aujourd'hui, tu es aussi, alors, je ne sais pas si on dit auteure ou autrice. Moi, je trouve ça moche, autrice. Je préfère,
oui,
dire auteur.
Alors, la maison d'édition m'a dit on dit autrice.
D'accord.
Je t'avoue que je trouve ça vilain aussi. Je préfère,
bon,
dire auteur, mais apparemment, il faut dire autrice.
En tout cas, tu as écrit 2 bouquins, si je ne m'abuse, où tu es co-autrice, je le dis,
ouais,
et 2 autres où tu es la seule à avoir écrit. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces projets-là ?
Oui, alors les 2 premiers où je suis co-autrice avec, donc on est 4 en tout, ce sont des livres de patrons de couture.
D'accord.
Donc c'est chez Mango Édition. Il y a le livre Les Jupes et il y a le livre Manteau et Veste.
Ok.
Et en fait, chaque créatrice, donc on est 4 créatrices, proposait 2 patrons dans ce thème, sur ce thème,
okay,
2 patrons de couture. Donc on donne nos planches et puis ensuite on fait toutes les explications avec des photos pour accompagner les personnes pour coudre leurs vêtements.
Ok, c'est Mango qui est venu jusqu'à toi, qui t'a contacté pour ce projet ?
Oui, pour le livre Jupe, c'était le premier, c'était en 2018. Oui, ils sont venus me demander si ça m'intéressait.
Ok.
Donc je me suis dit que ça, c'est pas trop une question, ça rapporte pas d'écrire des livres, mais je me suis dit que ça permettait d'avoir une visibilité différente.
Bien sûr, oui.
Voilà. Et après, pour Manteau et Veste, c'était un peu un hasard parce que j'avais recontacté l'éditrice en lui disant bah, « Si vous avez un autre projet, pourquoi pas ?»
Ouais.
Elle m'a dit bah, « Justement, quelqu'un vient de nous lâcher,
ah, okay,
sur Manteau et Veste. » Donc, alors, c'était un peu compliqué parce que Manteau et Veste, en plus, à l'époque, j'en faisais pas, moi.
Ah oui.
En un mois et demi, il fallait que je sorte de patron.
Challenge.
Je me suis dit « Bon, Maud, je relève le challenge, vas-y. » Et puis bon, ça s'est bien passé. Voilà, donc ça, c'est les deux
où tu es co-autrice et les 2 que tu as écrit seule, en tout cas, où tu es la seule,
oui,
autrice.
Oui, alors les 2, alors c'est aux éditions La Plage. Donc,
d'accord.
C'est eux aussi qui m'ont contactée quelques années après, parce qu'ils m'ont contactée en 2020, si je me souviens bien.
Ouais, c'est assez récent.
Ils m'ont proposé posé plusieurs sujets.
D'accord.
Dont un qui était sur un peu upcycling, recyclage.
Ouais, c'est bien.
Et moi, c'est vrai qu'à titre personnel, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que je pratique dans ma vie de tous les jours. Comme je suis toujours, comme je vous ai dit, j'aime l'environnement, tout ça. Donc forcément,
Bien sûr, ouais.
Voilà, ça me touche. Et associer ça à la couture, je trouvais ça génial. Et donc, c'est un livre où il y a plus de 40 projets pour recycler vêtements, linge qui en fait traîne chez nous et qui ne sert à rien. Et
tu as un exemple par exemple
Celui que j'aime beaucoup et que je m'en sers tous les jours, c'est mes sous-tasses en fait, que j'ai fait à partir de sweat.
D'accord.
Un sweat par exemple d'un enfant qui a grandi. Voilà, le sweat il est trop petit ou alors il est taché à un endroit où il est troué ou peu importe la raison, mais il n'est plus porté.
Ouais.
Après, en fait, j'ai créé un petit patron de feuilles. En forme de feuille d'arbre, en fait.
D'accord.
Et tu crées en cousant deux épaisseurs de suite. Et puis, tu fais des petites surpiqûres pour faire les nervures des feuilles, si tu
D'accord,
veux.
D'accord, ok.
Et tu crées, voilà, ton petit...
Et après, tu poses ta tasse, ton verre, pas attaché.
Sur tes petites feuilles. Et si tu le fais joliment, en plus, c'est sympa.
Ouais. Et c'est toi qui l'as fait.
C'est toi qui l'as fait. Et puis, t'as recyclé quelque chose qui dormait dans un placard ou qui allait... finir à la benne, parce que quand ils sont troués, tachés, tu peux même pas les donner, quoi.
Bah oui, ouais, bien sûr. Non, mais c'est bien, j'aime cette idée de donc 40 créations où on peut faire de la récup.
Je crois qu'il y a 40, à la base, il m'avait demandé au départ 25, 30 projets, puis après 35. Puis moi, en fait, comme d'habitude, j'y suis allée à fond, j'avais fait plein de croquis, j'avais proposé plein de choses, j'en avais 49. Il me dit, ah bah, on prend tout.
D'accord.
Bon, en fait, au final, déjà, moi, ça me faisait trop de travail.
Oui, il fallait faire une sélection.
Et puis, bon, il n'y avait pas assez de place.
Ce sera l'occasion de faire un tome 2.
Ouais, je ne suis pas sûre, mais oui.
Et le deuxième bouquin, c'était sur quel sujet?
Alors, le deuxième, c'est un sweat pour toutes, où en fait, tu pars d'un patron de base, donc qui est le sweat de base,
ouais.
Et où je propose 5 déclinaisons de ce sweat. Mais surtout, il y a une partie dans le livre qui est une partie technique qui explique comment, par exemple, modifier une encolure, créer une boutonnière.
D'accord.
Avec le sweat de base, il y a aussi deux petits accessoires, on va dire. Il y a la capuche et la poche ventrale.
Okay.
L'idée de ce livre, c'est d'aider la personne qui va l'acheter à créer le sweat dont elle rêve. C'est-à-dire, moi, je veux un sweat avec un empiècement triangulaire, un décolleté comme ça, un volant dans l'empiècement et des manches courtes. Eh ben, tu peux le faire avec le livre.
Okay.
Et les 5 déclinaisons permettent simplement... de développer un petit peu la technique et de montrer comment à chaque fois on commence sur le patron de base, on dit pour cette déclinaison là vous devez modifier la manche comme ça, le décolleté comme ça, et okay. Voilà,
c'est à dire qu'avec ce bouquin on peut faire 10 versions d'un sweat.
Oui, les déclinaisons, il y a la robe sweat, il y a le petit sweat manche courte avec un empiècement avec des volants, il y a le sweat à basque, il y a le sweat à capuche un peu classique avec la poche ventrale.
Ok.
Tu vois, donc
je comprends.
Tu peux faire ce que tu veux.
Aujourd'hui, tu es suivie sur Instagram par près de 36 000 personnes. 35,
pas encore.
35,9. Alors, je vous invite tous à aller suivre Anna Rose Pattern sur Instagram, c'est ça.
Ouais.
Ok. Donc, c'est une belle communauté. Comment ça s'est fait, cette communauté-là, justement? Parce qu'au tout début, tu nous disais que quand tu avais repris l'ancien compte Instagram du blog que tu avais avec ta sœur, il y avait à peu près 2000 personnes. Mm. Est-ce que tu as vu des paliers? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce que tu as fait, je ne sais pas, ça se faisait beaucoup peut-être à l'époque, une collaboration avec une marque ou avec quelqu'un d'autre et que du coup, ça t'a fait gagner des abonnés? Comment...
Non, je t'avoue que le fonctionnement d'Instagram est assez nébuleux pour moi et c'était un petit peu, entre guillemets, la chance... C'est ce que je me dis souvent. Je me dis, tu as la chance de créer des choses qui plaisent à suffisamment de gens pour que tu puisses en vivre. C'est souvent ce que je me dis. Et donc là, je me dis, j'ai eu la chance que ça plaise à suffisamment de gens qui ont du coup eu envie de s'abonner, de me suivre. Et, voilà.
Ah, je te suis, oui et non. Parce que alors, je ne saurais plus dire, je suis très mauvaise en ça, parce que je me souviens de quelque chose, mais je ne me souviens pas assez pour vous donner toutes les infos. Mais de quelqu'un qui me disait, non, faut pas dire que c'est de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est du travail, c'est de la créativité, c'est mes idées. Qui ont fait que, effectivement, ça a plu à plein de gens, tu vois.
Oui, mais je pense qu'il y a des personnes, tu vois, des artistes qui vont avoir une certaine créativité, qui va toucher moins de monde, qui va plaire à moins de monde.
Oui, je comprends.
Ils vont avoir peut-être une technique, quelque chose de super, mais ça ne va pas plaire.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Soit parce que c'est pas dans l'air du temps, soit parce que je sais pas pour quelle raison.
Ouais.
Mais entre guillemets, ils ont pas cette chance, tu vois, même si effectivement il y a du travail et de la créativité derrière. Mais voilà, souvent je me dis j'aurais pu créer des choses qui plaisent pas du tout.
Quoi. Oui, après disons que tu n'es pas sur une niche dans le sens ce que tu fais.
Oui, c'est pas très spécial.
Tes vêtements ne sont pas des vêtements très spécifiques. Enfin, je sais pas si je m'exprime correctement, mais en tout cas, c'est des vêtements dans lesquels on peut tous, ou en tout cas une majorité, se retrouver, se dire tiens, je pourrais le porter. C'est pas des formes très mode. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Oui, exactement. Oui, le but de toute façon, moi, quand je crée quelque chose, c'est qu'on puisse le mettre au travail.
Bien
que,
sûr.
En fonction du tissu, cette robe, c'est pour un mariage, mais aussi je peux éventuellement la mettre pour aller travailler.
Ouais, ouais.
C'est clair que mon but, c'est pas de créer des vêtements haute couture ou je sais pas, t'as une manche en plein milieu de ton corsage avant ou...
Ouais, je comprends.
C'est sûr.
Donc une belle communauté donc de 35,9 000 personnes. Tu as une newsletter aussi à laquelle on peut s'abonner. Tu me disais que t'étais pas mal suivie aussi sur ta newsletter. De quoi tu parles? Est-ce qu'elle est mensuelle?
Alors non, en fait, à titre personnel, j'aime pas recevoir plein de newsletters, donc j'essaye de pas matraquer mes abonnés avec des newsletters.
Ouais.
Je parle souvent des sorties de patrons.
D'accord.
Après, ça peut m'arriver de faire des newsletters pour parler d'un hacking que j'ai fait, c'est-à-dire...
C'est quoi un hacking?
Alors, moi, j'ai repris le terme qu'on utilise, mais que j'entends par ailleurs, mais c'est en fait avoir modifié un patron de couture pour
créer,
ouais, pour créer quelque chose d'un peu nouveau. Moi, comme j'ai dit, moi souvent je modifie, donc je modifie même mes propres patrons.
Ah oui.
Il y a même la robe volute, je me rappelle qu'elle est sortie, j'avais tellement d'idées sur ce modèle, je pouvais pas tout sortir dans le patron, que le mois d'après j'ai sorti un article avec 4 versions différentes de ce modèle parce que j'avais tellement, fallait que ça sorte de moi, tu vois.
Ouais.
Et donc des fois c'est des newsletters comme ça où ça peut annoncer une petite promo, ou parfois aussi un peu d'inspiration sur des looks, mais toujours forcément en lien avec les patrons de couture.
D'accord. Est-ce que tu as des projets? Comment, alors je vais pas te poser la question parce que des fois moi on me la pose et je sais pas quoi répondre, mais comment tu te vois dans 5 ans, ou en tout cas est-ce que là t'as des projets, des envies de développer des choses au sein d'un Arose Patterns?
Je voudrais avoir plus de temps pour développer tout ce qui est patron en anglais.
Ah d'accord.
Voilà, parce que j'en propose très peu, parce que même ceux que j'ai fait traduire, je n'ai pas le temps de les traiter, c'est affolant. Et donc là, je me suis mis comme objectif vraiment, les derniers ont été traduits avec mise en page, donc ça me simplifie la vie.
D'accord.
Donc au moins de mettre cela et de commencer des newsletters en anglais avec la toute petite communauté.
C'est ce que j'allais dire, tu as des gens qui te suivent.
Alors j'ai quelques abonnés sur la newsletter anglaise.
Okay.
Parce qu'au début j'avais voulu commencer, mais en fait j'avais bien trop de travail pour arriver à gérer tout ça. J'en ai toujours autant, mais bon, j'ai espoir, voilà. J'aimerais vraiment, vraiment développer ça parce que c'est une autre façon de grandir, de se faire connaître ailleurs, sans forcément, parce que j'aime bien créer des nouveaux patrons, mais il ne faut pas que ça devienne une nouveauté chasse l'autre et
oui, je comprends.
Un peu la course à la nouveauté. J'aime bien aussi que les anciens patrons vivent aussi, en fait, et soient toujours d'actualité.
Oui, je comprends.
Voilà.
Que ce ne soit pas trop éphémère.
C'est ça.
Alors, comme à chaque fin d'épisode, j'ai 3 petites questions pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une déconvenue, d'un projet ou lequel tu veux, peu importe. En tout cas, quelque chose que tu avais prévu comme ça, mais qui s'est pas passé comme tes plans. Et c'est pas grave, parce que tu en as aussi retiré du positif.
Mais je crois que c'est l'histoire de ma vie, ça, en fait. Parce que on prévoit tout. Moi, je prévois beaucoup, mais ça se passe jamais comme j'ai prévu. Mais en fait, tu m'avais posé la question un peu avant et j'ai essayé d'y réfléchir. Et je t'avoue que j'ai eu des déconvenues, évidemment. Mais c'était pas... Si, j'ai eu une déconvenue par rapport au salon création et savoir-faire en 2021, mais c'était du fait du Covid.
D'accord.
Que je m'attendais à ne pas avoir besoin de le faire. Et puis, bon, j'ai été forcée de le faire. Donc, ça a été très compliqué. Mais c'est pas vraiment... J'estime que c'est pas une déconvenue dans mon travail, en fait.
Oui, je comprends.
Après, j'ai eu quelques petits couacs aussi, une fois avec impression de patron et qu'il y avait une erreur sur une planche et qu'il a dû, il a fallu tout réimprimer.
Eh ouais, bah, c'en est une quand même.
Ouais, c'est surtout quand tu dois envoyer la newsletter Erratum.
Oui, bien sûr, ouais.
Et que t'es dans tes petits souliers en disant, oh, purée, je passe pour une, voilà. Pas ouais, je comprends. Vraiment pour une...
Enfin, enfin, oui, tu dis mince, c'est pas pro, c'est voilà, pas pro de faire ça.
Exactement,
ça
fait pas pro du tout.
Même si ça peut arriver.
Au final, j'ai tout fait réimprimer pour pouvoir renvoyer parce qu'en plus je revenais du salon, donc j'avais vendu tous les patrons.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, en retravaillant le patron pour le passer en format numérique, je dis.
Tu t'es rendu compte?
Alors sur, en plus c'était sur deux patrons parce que sur un c'était une toute petite erreur qui pouvait être corrigée, donc j'avais fait un erratum pour que les personnes corrigent d'elles-mêmes parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à changer, mais sur l'autre c'était impossible.
Ah mince.
Donc il fallait tout refaire. D'ailleurs la modéliste qui avait fait l'erreur s'est excusée et
oui,
m'a fait une ristourne pour tout dire parce que bah oui, mais
ouais.
C'était aussi mon erreur puisque c'était à moi de vérifier de
oui,
toute
bien
façon
sûr,
hein,
ouais, ouais.
Je suis au bout de la chaîne et c'est à moi de faire attention. Et donc bon, j'ai fait tout réimprimer et au final il y a une seule personne qui m'a demandé de lui renvoyer le patron.
C'est ce que j'ai c'est ce que j'allais demander. Est-ce que tu avais eu des mécontents ou est-ce que tu as réussi
en fait,
à...
L'erreur concernait les tailles 48-52.
Ah oui,
donc en fait, par hasard, la plupart, je pense, des personnes qui l'avaient acheté ne souhaitaient pas utiliser
cette taille-là.
Donc bon, c'était pas problématique. Mais c'est vrai que ça m'a pesé longtemps parce que du coup, je me suis retrouvée avec un gros paquet de patrons sans packaging parce que j'avais fait réimprimer que les planches.
Ah oui.
Sans livrer. Donc après, j'ai essayé de faire la vente de planches seule. Et ce qui, plein de gens me disaient ah oui, ça nous intéresse, mais au final, c'est... non.
Ouais, d'accord. Ouais.
Il y a souvent ça d'ailleurs, hein, les gens qui disent ah oui, ça
oui, il faut faire attention.
Au final, tu te lances et puis bon, bah non, en fait, ça n'intéresse pas tant de monde que ça.
Ok, alors est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors, une personne que tu connais ou que tu ne connais pas forcément?
Alors, bon, tout à l'heure, j'ai dit que ma grand-mère m'inspirait dans le sens de la beauté des choses et de la féminité. Et j'ai réfléchi aussi à cette question et je crois qu'en fait, déjà, je ne suis pas douée pour retenir les noms des gens.
Donc, d'accord.
Il y a souvent des gens qui m'inspirent, mais moi, je suis incapable de dire « Oui, mais c'était le gars qui est dans le podcast de Trucmuche. Ben, » Enfin, voilà, je suis très nulle à ça. Après, je sais que côté business, j'aime bien écouter les podcasts de Aline The Bee Boost.
D'accord, ok.
Voilà, elle me fait rire et puis ce qu'elle dit m'inspire, mais c'est plus côté entrepreneur, on va dire.
Ok.
J'aime bien récemment aussi, plus récemment, on va dire Chloé Bloom, mais c'est plus spirituel.
Ouais, ok.
Et ensuite, je pense que les gens, de manière générale, m'inspirent. En fait, je remarque souvent que ça peut être, tu vois, mes nouveaux collègues, entre guillemets, ils vont aussi m'inspirer dans leur façon de voir les choses, dans leur art. Et en fait, je suis pas inspirée par des personnes en particulier. Je vais pas te dire... quelque chose que pourrait dire d'autre. Oui, Lisa Gachet m'inspire.
Lisa Gachet, c'est la créatrice de Make My Lemonade,
voilà.
Qui est une marque de patron de couture et de vêtements aussi. Elle a une boutique à Paris, dans le 10e.
Voilà.
Moi, j'adore.
Elle a monté une entreprise exceptionnelle.
C'est très inspirant. Moi, elle m'inspire beaucoup. Alors, je n'ai jamais utilisé ses patrons de couture, mais en tout cas, l'univers qu'elle a créé, la marque et le fait d'avoir développé m'inspire.
Alors moi, si tu veux,
ouais.
Je peux dire que c'est inspirant dans le sens où... mais encore même pas, parce que moi, je ne souhaite pas avoir un empire, tu vois.
Enfin, je comprends.
C'est vraiment pas mon truc. Donc en fait, je suis plus inspirée... par des petites choses, par les gens, par des choses que je vais voir. Voilà, j'ai pas de grand mentor, quoi.
Je comprends, c'est pas grave.
Désolée,
prends la réponse quand même. C'est intéressant de dire aussi qu'on trouve l'inspiration dans son quotidien et dans les gens qu'on rencontre dans le quotidien. Et enfin, quel est ton mantra ou ta citation préférée?
Alors ça va un peu sur la même lignée que je n'ai pas de mentor. Je n'ai pas vraiment de mantra.
Tu te souviens pas de...
parce que parfois, j'ai des phrases, je fais « Oh ouais, c'est trop bien !» Et puis je m'en souviens plus après.
Faut les noter dans ton petit carnet.
Faut que je les notes et puis je les relise, tu vois, comme quand tous les matins, t'es censé te regarder en disant « Je suis une femme exceptionnelle.
» Personnellement, je ne le fais pas.
Moi non plus, mais... Non, par contre, il y a un truc que j'aime bien et c'était, je crois que c'est Aline, justement, dans The Bee Boost, qui l'a dit une fois. « Mieux vaut fait que parfait. » Parce qu'en fait, ça soigne un petit peu ma perfection et mon côté bloquant de la perfection. C'est-à-dire, je suis très perfectionniste, mais parfois, ça t'empêche d'avancer.
Bien sûr, bienvenue au
club.
Et
donc, voilà. Et donc, parfois... Quand elle a dit ça, je dis, mais c'est vrai, parce que finalement, ça ne sera jamais parfait. Et en fait, de le faire te fait avancer et te fait corriger au fur et à mesure ce qui doit être corrigé. Bien Donc sûr. En fait, il faut juste y aller.
Je suis d'accord. On finira là-dessus parce que je suis totalement d'accord. Alors justement, pour conclure l'épisode, j'aimerais que tu puisses nous redire où est-ce qu'on peut te trouver. Il y a donc ton site internet sur lequel on peut commander tes patrons pour les gens de France, de Navarre et d'ailleurs.
Et de international.
Est-ce que tu peux nous dire le nom du site internet précisément, même si je mettrai tout ça évidemment dans les notes de l'épisode?
Oui, alors le site, c'est annarosepatterns.com.
Ok, donc Anna avec deux N, Rose et Patterns, P-A-T-T-E-R-N-S. Patterns. Donc sur le site internet, tu nous as dit que tu avais aussi toutes ces petites merceries un petit peu partout. Ça, je pense que tu l'as noté sur ton site, si on veut savoir où est-ce que c'est revendu
peut-être.
Comme
c'est récent, non, j'ai pas encore mis
alors bientôt, ça le sera.
Les revendeurs, mais oui, tu me donnes une idée, voilà. Pourquoi pas, oui, mettre les revendeurs.
Parfait, et donc si on veut te suivre, Instagram, est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux où on peut te retrouver?
Alors, j'ai une page Facebook, mais c'est plus associé à Instagram.
D'accord,
donc c'est si vraiment, on veut vraiment sur Instagram.
Ouais, le quotidien d'Anna Rose Patterns, c'est sur Instagram. Voilà. Parfait. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet échange et ce partage. À très bientôt, Maud.
Merci à toi.
À bientôt. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Sachez que ces avis sont très importants pour moi et pour le podcast. Et puis pour suivre Comme Elle, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook @commeelle.lepodcast. Merci de votre soutien et puis je vous dis à dans 15 jours.